Escalade. La Méridienne.
Allez, c'est l'heure de la rubrique Nuances du Monde. Et cette semaine, c'est avec Emma que ça se passe. Bonjour.
Salut Mathieu.
Ça va bien ?
Ouais, ça va bien. Bonjour à tous.
Alors, tu nous proposes tous les mois un livre avec des petites lectures pour nous donner envie. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur sur lequel j'ai déjà fait une petite chronique. C'est Philippe Claudel. Alors, j'y reviens parce que c'est un de mes auteurs contemporains préférés. Et je vous avais parlé du rapport de Brodeck, qui pour moi est vraiment un chef-d'œuvre. Celui-ci, il est moins fort. Hein. C'est un plus court roman, comme tu peux voir. Il s'appelle La petite fille de Monsieur Lin. Okay. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avec un troisième roman qui s'appelle Les âmes grises, eh bien, ces trois-là de Philippe Claudel, ils forment une sorte de triptyque littéraire. Ce n'est pas une trilogie, ce sont des personnages qui sont vraiment différents les uns des autres. Mais on retrouve des thèmes en commun. Le thème de la guerre, alors c'est jamais la même guerre, elle n'est jamais nommée, elle reste intemporelle, mais il y a des allusions. Par exemple, sur Brodeck, on avait dit que ça ressemblait fortement à la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Ici, on nous parle aussi d'une guerre qui ressemble à la guerre d'Indochine.
Okay.
Voilà. Et puis l'autre thème qui est commun, c'est l'altérité. Ce qui est, en fait, il aime bien explorer à la fois ce qui est pareil chez l'autre et ce qui est pareil dans la différence aussi. Et c'est un thème que je trouve intéressant. Et puis, il va aussi parfois plus loin, enfin souvent, en tout cas dans ces trois romans-là aussi, il va vraiment aller explorer l'âme humaine, parfois dans ce qu'elle a de plus sombre. Mmh. Hein, Brodeck, on avait vu que c'était un roman un peu sombre, aussi parfois dans ce qu'elle a de plus beau. Voilà, alors on a un petit peu les deux. Moi, je trouve qu'on a plus de beau quand même dans celui-ci. Alors, ça commence comme ça. C'est un vieil homme, debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Lin. Il est seul à savoir qu'il s'appelle ainsi, car tous ceux qui le savaient sont morts autour de lui. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras, l'enfant dort. Le pays s'éloigne, devient infiniment petit, et Monsieur Lin le regarde disparaître à l'horizon pendant des heures, malgré le vent qui souffle, et le chahute comme une marionnette. Le voyage dure longtemps, des jours et des jours. Et tout ce temps, le vieil homme le passe à l'arrière du bateau, les yeux dans le sillage blanc, qui finit par s'unir au ciel, à fouiller le lointain pour y chercher encore les rivages anéantis. Alors, comme tu vois, Mathieu, j'ai dit sombre et beau. Mmh. Je trouve que déjà, dès cet extrait, on a un peu les deux. On voit que le thème, il est assez fort. Hein. Il quitte un pays en guerre. Mais l'écriture est extrêmement poétique. Hein. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu. Il y a des rimes internes. Il y a quand même des images qui sont très, très belles. Cette histoire, hein, c'est l'histoire de notre personnage principal, Monsieur Lin. Donc, il quitte son pays en guerre avec juste une valise et sa petite fille. Alors, je vous lis juste un petit extrait. On nous dit sur cette valise, « En vérité, elle ne contient que des vêtements usagés, une photographie que la lumière du soleil a presque entièrement effacée et un sac de toile dans lequel le vieil homme a glissé une poignée de terre. C'est là tout ce qu'il a pu emporter. Et l'enfant, bien sûr. » Alors, vous voyez encore hein, ce style extrêmement poétique. En fait, je trouve que on peut résumer ça par simple et beau. Mmh. Pour moi, c'est ce qui caractérise vraiment le style de cet auteur. Et c'est vraiment une écriture qui me touche et qui me touche presque au-delà de ce que je saurais expliquer en réalité. Je trouve que c'est un peu le talent des grands auteurs. Mmh. Alors, quelques mots maintenant sur la petite fille, ouais, qui est notre autre personnage principal, qui est aussi le titre hein, du roman. Les parents de l'enfant étaient les enfants de Monsieur Lin. Le père de l'enfant était son fils. Ils sont morts dans la guerre qui a fait rage au pays depuis des années déjà. Ils sont partis un matin dans les rizières avec l'enfant et le soir, ils ne sont pas revenus. Le vieil homme a couru. Il est arrivé essoufflé près de la rizière. Ce n'était plus qu'un trou immense et clapotant, avec, sur un côté du cratère, un cadavre de buffle éventré, son joug brisé en deux comme un brin de paille. Il y avait aussi le corps de son fils, celui de sa femme, et plus loin la petite, les yeux grands ouverts, emmaillotés, indemnes, et à côté de la petite, une poupée, sa poupée, aussi grosse qu'elle, à laquelle un éclat de la bombe avait arraché la tête. La petite fille avait 10 jours. Ses parents l'avaient appelée Sangdiyu, ce qui dans la langue du pays veut dire « matin doux ». Ils l'avaient appelée ainsi, puis ils étaient morts. Encore une fois, je trouve cette description vraiment, vraiment percutante.
Ah oui.
Et c'est simple, clair et beau en même temps. Alors cette petite fille, c'est pour elle que Monsieur Lin est parti, en fait, pour lui assurer une vie loin de la guerre. Alors au bout de 6 semaines, ils vont arriver dans un pays étranger. On ne sait pas quel est ce pays. On peut penser peut-être que c'est la France, mais ça n'est jamais évoqué. Monsieur Lin ne connaît pas la langue, hein, il vit dans un dortoir avec d'autres réfugiés. Il ne sort jamais. Et puis un jour, une des traductrices qui vient parfois l'incite à aller prendre l'air. Elle dit que ce serait bien pour la petite de voir un peu le soleil. Alors il finit par accepter. Il erre dans ces rues inconnues qui sont si différentes de son pays natal. Hein, tout l'étonne, lui fait peur. Et puis à un moment, il s'assoit sur un banc pour nourrir l'enfant. Et voilà ce qui se passe. Il s'aperçoit soudain qu'ils ne sont plus seuls sur le banc. Un homme s'est assis qui le regarde et regarde la petite aussi. Il doit avoir le même âge que Monsieur Lin, sans doute. Peut-être un peu moins vieux tout de même. Il est plus grand, plus gros et porte moins de vêtements. L'homme esquisse un sourire. Pas chaud, hein ? Il souffle sur ses mains, prend un paquet de cigarettes dans une de ses poches, tape sur le fond avec un geste précis qui fait jaillir une cigarette. Il tend le paquet à Monsieur Lin qui fait non de la tête. « Vous avez raison, dit l'homme. Je devrais arrêter, mais avec tout ce qu'on aurait arrêté. » Alors cet homme, c'est Monsieur Bark. Et ils vont petit à petit se rencontrer sur ce banc tous les jours. Monsieur Bark, il vient s'asseoir ici parce que ce banc, il est juste en face d'un petit carrousel et c'est celui que sa femme tenait avant de mourir. Et ça lui fait penser à elle de venir là. Alors, il se salue hein, et Monsieur Lin dit bonjour dans la langue de son pays. Il dit Taolai, ça veut dire bonjour. Et Monsieur Bark, du coup, se met à l'appeler ainsi. Il l'appelle Monsieur Taolai parce qu'il ne connaît pas vraiment son nom. Et petit à petit, malgré la barrière de la langue, une amitié se noue entre ces deux hommes qui ont chacun à leur manière été frappés par le malheur, par leur regard, par la douceur de leurs mots qu'ils ne comprennent pas. Ils vont s'apprivoiser et ils sentent sans le savoir qu'ils partagent une souffrance commune. Alors, je vous lis un extrait de leur toute première rencontre, hein, celle dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la suite de mon extrait précédent. Monsieur Lin attend que la voix reprenne. Sans qu'il sache le sens des mots de cet homme qui est à côté de lui depuis quelques minutes, il se rend compte qu'il aime entendre sa voix, la profondeur de cette voix, sa force grave. Peut-être d'ailleurs aime-t-il entendre cette voix parce que précisément, il ne peut comprendre les mots qu'elle prononce et qu'ainsi, il est sûr qu'ils ne le blesseront pas, qu'ils ne lui diront pas ce qu'il ne veut pas entendre, qu'ils ne poseront pas de questions douloureuses, qu'ils ne viendront pas dans le passé pour l'exhumer avec violence et le jeter à ses pieds comme une dépouille sanglante. Il regarde son voisin tout en serrant l'enfant sur ses genoux. Alors on voit bien ici hein, que c'est vraiment une amitié qui se noue au-delà des mots. Et ça va même aller au point où Monsieur Bark va avouer, alors dans sa langue à lui, hein, à Monsieur Lin un secret qui le libère. Et finalement, il obtient une sorte de rédemption tardive dans ces échanges où c'est l'humanité de chacun qui se reconstruit, qui se renforce dans une amitié toute simple et tellement vraie et sincère hein, que peut-être justement, elle est tellement vraie et sincère parce qu'elle elle ne passe pas par les mots. Et voilà, alors il va se passer d'autres choses, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir la suite en lisant La petite fille de Monsieur Lin de Philippe Claudel.
Super, merci beaucoup pour cette proposition de lecture, Emma. À très bientôt.
Merci Mathieu, au revoir à toutes et tous. La Méridienne.